I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
On ne connaît vraiment quelqu'un qu'après s'être disputé avec lui. Anna Maria Fontes. Ne vous disputez jamais avec un idiot. Les spectateurs pourraient ne pas être en mesure de faire la différence. Mark Twain. Les conflits dans le monde sont le miroir de nos conflits intérieurs non résolus. Eckhart Tolle. Partout où il y a conflit, partout où vous êtes en face d'un opposant, triomphez de lui par l'amour. Gandhi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Robitaille avec vous pour la prochaine heure à cette émission qui sera exclusivement cette semaine sur les conflits. Mais quand on dit conflit, on parle de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, un conflit? Si l'univers est parfaitement en équilibre, pourquoi les conflits sont partie intégrante de cet équilibre parfait-là? Donc oui, quelles sont les conséquences des conflits, des conséquences positives, mais également négatives? Est-ce qu'il y a des conflits sains? Pourquoi certaines personnes se nourrissent des conflits alors que d'autres personnes les évitent absolument à tout prix? Et est-ce qu'on peut dire des conflits intérieurs qu'ils sont la même chose que les conflits extérieurs? Est-ce qu'on les règle de la même façon? Est-ce qu'on les aborde de la même façon également? Comment on peut mieux vivre en harmonie? En harmonie tout court, mais en harmonie dans le conflit également. Pour en discuter cette semaine, nos invités, Jean-Pierre Charbonneau, Élise Corriveau, et François Baruel. Bienvenue à On est tous des humains.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Jean-Pierre Charbonneau, d'abord journaliste au Devoir, ça vous prépare une vie politique hors du commun. Député et ministre au Parti québécois, président de l'Assemblée nationale, déjà enfant, vous fonciez un peu dans le tas, vous dérangiez. La chicane, ça vous a jamais fait peur. Vous vous voyez d'ailleurs vous-même comme un journaliste de combat, sans parler des conflits intra-PQ pour vous que vous commentiez face aux médias sans gêne et avec aise, on va le dire. Aller au front, créer des altercations d'idées, de valeurs, c'est votre créneau. Élise Corriveau, vous êtes spécialiste en harcèlement, membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Vous dirigez le service de prévention et de règlement des différends du cabinet Dialogue. Vous êtes médiatrice accréditée par l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec ainsi que celui du Canada. En tant que membre affilié de l'Institut canadien pour la résolution de conflits, on peut dire que les chicanes, les mésententes, les discordes, c'est votre quotidien. François Baruel, vous êtes médecin généraliste et stomatologue de formation. Arrivé au Québec il y a quelques années, retraité de votre métier, vous continuez à vous intéresser à l'humain et à son anatomie, tant physiologique qu'émotionnelle. Vous êtes d'ailleurs chroniqueur ici au Canal M pour continuer à véhiculer votre savoir et garder en vie votre passion pour l'être humain. Vous êtes quelqu'un d'assez pacifique et les conflits... Vous avez votre opinion là-dessus, à tous les trois. Merci infiniment d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quand on dit conflit, ça résonne quoi pour vous? C'est quoi un conflit? Monsieur Charbonneau.
Un conflit, c'est un affrontement. C'est un affrontement d'idées, c'est un affrontement physique, c'est un affrontement intellectuel. C'est une espèce de dilemme qu'on essaie de résoudre dans le fond. Et puis, je pense qu'on ne peut pas parcourir une vie sans qu'il y ait des conflits. On a des conflits avec nous-mêmes, des conflits de valeurs, des conflits de choix. On a, à partir du moment où on est en relation avec d'autres, il y a nécessairement des conflits. C'est pas ça ne veut pas dire que c'est en soi négatif, mais il y a des divergences d'opinion, il y a des façons de... Comment je pourrais dire? On a tous des aspérités. Je me rappelle un ami qui me disait, à partir du moment où on est en relation avec quelqu'un, il n'y a pas une harmonie parfaite, ça n'existe pas la perfection. Alors, il y a des accrochages inévitables, puis on essaie de les résoudre, si on veut les résoudre, mais souvent, soit parce qu'on est inconscient ou parce qu'on est dans une dynamique toxique, alors le conflit dégénère et on n'arrive pas à le résoudre, ou on ne veut pas le résoudre, ou on ne veut rien faire pour le résoudre. Mais on peut espérer vivre dans un monde harmonieux, mais tantôt tu parlais d'équilibre. Moi, je pense que le concept de l'équilibre, il faut faire attention. L'équilibre, c'est un équilibre dynamique. C'est le mouvement. À partir du où il y a du mouvement, il y a quelque chose qui, justement, doit se tenter de faire en sorte qu'un côté équilibre l'autre. Mais l'équilibre total, c'est-à-dire quand on est en total équilibre, on est mort. Il
n'y
a pas de vie, il n'y a pas de mouvement. À partir du moment où il y a du mouvement, il y a une dynamique qui peut facilement faire en sorte qu'un côté prend le dessus de l'autre. Et on essaie justement d'essayer de trouver une situation où chacun va y trouver son compte.
Un milieu. Et là, vous l'avez nommé, c'est difficile, parfois des conflits. Quand je vous ai posé la question d'emblée, est-ce que ça existe des conflits sains? La réponse, elle était unanime. Oui, des conflits, c'est sain. Par contre, cette vision négative-là, j'ai l'impression que des fois, on est un petit peu mélangé, puis vous avez nommé le conflit comme étant quelque chose de beaucoup plus complexe qu'on le pense. J'ai l'impression que parfois, on mélange conflit et violence. Être en conflit, ça peut aussi être en froid, en silence radio, être absolument pas en contact. C'est pas vrai que c'est de la violence, Mme Corriveau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais...
En fait, le conflit...
J'ai l'impression que des fois, on est un petit peu mélangé.
Je vous dirais que par définition, on pourrait définir en fait le conflit comme étant une opposition. Une opposition, une disparité entre des valeurs, des idées, des besoins, par exemple chez deux individus ou plusieurs. Là. Mm-hmm. Et puis, lorsque l'humain est confronté à cette disparité-là, c'est là où pendant une durée qui peut être... variable, où on peut percevoir, par exemple, l'autre comme étant, comme ayant, par exemple, ce qui est en opposition avec soi, comme étant incompatible. Donc, le conflit peut avoir un spectre d'intensité qui peut être très grand. Mm-hmm. Donc, mm-hmm. on peut avoir des conflits qui peuvent être plus mineurs, et puis il y en a qui peuvent être effectivement d'une envergure qui peut être plus grande. On peut avoir même des hyper-conflits, et puis il peut avoir une escalade qui peut même aller jusqu'à la violence, effectivement.
Mais à la base, c'est pas ça. Et ça peut être sain. Comment on fait pour savoir si un conflit est sain, M. Baruel? Parce que là, je veux dire, c'est bien le fun, là, oui, dans le concept, là, mais concrètement, quand est-ce que je sais si ce que je suis en train de faire, c'est constructif?
Un conflit est sain quand il y a une dynamique de pour tenter de le pacifier, pour tenter de résoudre le conflit, en fait. Ou bien quand c'est quelque chose de dynamique et que tout le monde est d'accord. Un conflit, ça peut se trouver... De toute façon, un conflit, c'est un malaise déjà au départ. Donc, pour essayer de réduire le malaise, si on cherche à réduire le malaise, c'est déjà qu'on est dans la position de vouloir régler le conflit. Et s'il y a un malaise, c'est qu'on n'est pas très bien. Donc, si on veut le régler, c'est ça qui est sain, c'est qu'on cherche à améliorer les choses.
Donc, le conflit nous amène à la paix comme la haine nous amène à tendre vers l'amour. C'est un peu ça?
Oui.
M. Charbonneau, tantôt, vous avez nommé des choses super importantes. Vous avez dit le conflit, ça mène aussi à bouger. L'équilibre, c'est bien beau, mais il faut bouger. Il y a de la mouvance là-dedans. Pourquoi on a besoin de conflits, des fois, pour faire bouger les choses? C'est pas un peu triste, ça?
Non, c'est pas triste. C'est-à-dire, on dit souvent en démocratie, ou par exemple dans un parlement, où, quand on fait des débats, du choc des idées jaillit la lumière. Alors, on a des intérêts divergents, on a des opinions divergentes, on a des sensibilités divergentes, on a des histoires de vie divergentes, et parfois opposées. Alors, tout ça, à un moment donné, quand on entre en relation avec d'autres, nécessairement, il y a des accrochages, mm-hmm. plus ou moins intenses, plus ou moins longs. Mm-hmm. Et si on a une volonté de régler ou de faire en sorte qu'il y ait des moments de rencontre ou des lieux où on peut faire en sorte que les accrochages soient réduits et que les uns et les autres y trouvent leur compte. C'est ça l'objectif. Alors, de chercher à ne pas y avoir de conflit. Par exemple, en démocratie, on ne peut pas penser qu'il n'y aura pas de conflit. Le débat, la recherche de la vérité, l'évaluation de différents points de vue, de différentes façons d'entrevoir la solution d'un certain nombre de problèmes, surtout quand ils sont complexes, ça nécessairement conduit à des discussions, parfois animées, parfois vigoureuses, parce que chacun a des convictions profondes. Alors, il ne faut pas avoir peur des conflits. Il faut juste essayer justement de les réaliser dans un environnement qui vise à chercher des solutions. Par exemple, le parlementarisme, c'était un progrès humain par rapport à la dynamique de prendre le pouvoir puis de conserver par la violence. Alors là, on avait une arène de combat qui était un parlement avec des affrontements civilisés, avec des règles, avec des balises qui faisaient en sorte que, et qui font toujours en sorte dans la plupart des parlements, on essaie de avancer à travers une confrontation qui est... Ce qui accentue la confrontation, c'est parce qu'en politique, c'est la recherche de l'intérêt public. Mais ce qui contamine souvent ça, c'est la quête du pouvoir et la volonté de le garder.
Donc, il y a certains domaines dans lesquels on va, qui d'emblée, on sait qu'on va devoir défendre, on va devoir se battre, entre guillemets, c'est inévitable. On dit qu'on ne doit pas avoir peur des conflits. Parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire. On va en parler de cette approche qu'on peut avoir face aux conflits en quelques instants.
Close my eyes and make it go away.
On a parlé de peur des conflits. On parle de peur des conflits parce que quand je pense aux conflits, les approches face aux conflits, c'est les mêmes que celles qu'on a face à la peur, c'est-à-dire fuir, figer ou contre-attaquer. C'est la même maudite affaire, on va se le dire. Il y a quand même un lien qui est indéniable là et j'ai l'impression, et on en parlait pendant que la chanson jouait, tout le monde ensemble, en train de s'ostiner un petit peu, sur cette idée-là qu'il y a un aspect de gestion des émotions. Mais ça part de loin, ça, Mme Corriveau. Quand on est enfant, on se fait dire rapidement, c'est pas beau la chicane. On intègre ça rapidement. Qu'est-ce qui se passe dans nos cerveaux en lien avec la chicane, la peur, puis tout ça?
Alors, c'est fascinant. Moi, je vous dirais que d'abord, ce qu'il faut se dire, c'est que le conflit est une opportunité. Alors, rapidement, on voit même le mot conflit. Les gens sont mal à l'aise. Absolument. Avec le mot conflit. Mais en fait, on devrait plutôt se dire qu'il s'agit d'une opportunité. Mais il faut saisir cette opportunité-là et il faut voir comment il faut en tirer le meilleur dans l'intérêt des gens qui sont impliqués dans cette situation.
C'est une opportunité de quoi?
Une opportunité de, ça peut être de confronter des idées, de valeurs, de revoir des façons de faire.
D'accepter l'autre. Hein?
D'accepter l'autre, de mieux se respecter,
ouais.
D'accueillir l'autre, de trouver une façon de mieux collaborer ensemble, de mieux se comprendre, de... Bon, alors, tout à l'heure, on parlait de malaise, de disparité. Donc, c'est une opportunité de mettre sur table ces disparités qu'on perçoit, ces écarts-là, et trouver une façon maintenant de collaborer mieux ensemble, de mieux se comprendre pour se sentir respecté.
En fait, je pense que le docteur le disait tantôt, il faut qu'il y ait une volonté de résoudre le conflit ou les conflits. Tant qu'il y a une volonté, pas juste d'apaisement, de recherche de solutions et de la place pour les uns et les autres, pour que tout le monde sente que son point de vue, ses intérêts, ses besoins sont pris en considération, il n'y a pas trop de problèmes. Là où il y a un problème, à mon avis, c'est quand les conflits sont animés et provoqués et entretenus par des intérêts qui, par exemple, si tu cherches le pouvoir et tu veux le conserver, on est en pleine campagne électorale américaine, dans quelques jours, il va y avoir des élections mi-mandat, et on regarde le comportement du président américain qui met de l'huile sur le feu sur n'importe quoi. Alors,
la provocation
devient... Il provoque des conflits, oui. Il entretient des conflits, il génère des attitudes et des comportements qui créent des clivages et des tensions. Et les gens ne sentent pas qu'ils ont avec eux un leader qui est capable de les unir puis de les aider à passer au travers. Non, il y a un intérêt pour lui d'être au pouvoir, de garder, de faire en sorte que sa gang reste au pouvoir. Et tout ça est conditionné, et c'est pas juste aux États-Unis, c'est un peu partout dans le monde. Alors, les conflits, quand il n'y a pas d'intérêt d'une partie à régler le conflit, mais à simplement imposer sa loi.
C'est une division par le conflit.
Ben voilà.
Ce qui permet de régner.
C'est un peu...
Ouais, c'est ça.
C'est un peu combattre la colère par la colère. C'est un peu ironique.
Exactement.
Là.
La colère, c'est une émotion fondamentale et c'est pas nécessairement mauvais. On sent juste... Quand on est en colère, c'est parce qu'on a l'impression que nos besoins ne sont pas pris en considération.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Mais à partir du moment où on a ça comme réaction, puis elle peut être très vive, et on parlait de coup d'état émotionnel. À un moment donné, on peut monter aux barricades, même en perdant un peu le contrôle émotionnel. Et tout à coup, bon, ben, si on est capable soi-même ou avec l'aide de l'autre ou de d'autres de calmer le système nerveux, bon, ben, on retrouve une certaine capacité de dialogue puis d'entrer en relation avec l'autre.
Encore faut-il,
oui,
encore faut-il pouvoir dire « je trouve ça injuste », c'est-à-dire, en fait, exprimer sa colère.
Oui, oui, oui.
Se connaître, finalement. Madame Corriveau, ça interpelle quelque chose chez vous?
Oui, en fait... Si je peux me permettre de poursuivre sur la question que vous aviez posée tout à l'heure, quand on dit aux jeunes enfants, c'est pas bien la chicane, en fait, c'est pas tant la chicane qui est pas bien, mais c'est peut-être la façon qu'on l'amène. Et puis, ça amène aussi avec ce que mon confrère disait, conflit et émotion vont de pair. Et souvent, l'émotion, étymologiquement parlant, l'émotion provient de émouvere. Donc, émouvoir, se mettre en mouvement. Et donc, quand l'humain ressent une émotion, en fait, tout son corps devient en mouvement, lui aussi. Il y a des changements neurochimiques, il y a toutes sortes de changements qui s'opèrent en lui qui viennent même à avoir des impacts sur ses perceptions et même sur sa capacité éventuellement à raisonner dans le conflit. Donc, ce qui pose problème, dans la chicane, dans la façon, comme vous le dites, d'aborder le conflit entre nous, c'est la façon qu'on a de gérer ses émotions, d'abord de se gérer soi pour être en mesure d'être en dialogue avec notre interlocuteur, parce que l'interlocuteur, il a besoin d'être reconnu lui aussi dans sa souffrance, d'être reconnu, que ses émotions soient lui aussi reconnues pour qu'éventuellement le dialogue puisse être fructueux et qu'il puisse avoir des échanges où, par exemple, les besoins, les intérêts sont discutés, mais sans les émotions. Donc, c'est là où certaines personnes vont dire, ben, c'est facile à dire, bon, ben, les émotions, on s'en fout des émotions, moi, je veux parler des faits. Ce que les gens omettent de comprendre, c'est que physiologiquement parlant, quand on veut aborder le conflit, on doit d'abord... On ne peut ignorer la portion émotive du conflit, parce que dans le cerveau, dans le fond, il y a le système limbique qui fait que, bon, l'humain va réagir au conflit et tout ça. Et puis finalement, si la portion émotion, elle n'est pas bien abordée, elle n'est pas reconnue, il ne pourra pas, le système qu'on appelle, en fait, le néocortex ne pourra pas, il pourra pas permettre à l'humain de raisonner et ensuite d'avoir cette discussion plus raisonnée pour trouver les solutions.
De toute façon, l'émotion est grandement sous-estimée dans nos sociétés actuelles. La raison, la logique est très, très investie, l'intellectualisation également, alors que l'émotion est un signal d'alarme très, très important.
Nous sommes des aides d'émotion.
Absolument.
Je ne crois pas que, justement, l'intellect soit tellement investi. Je trouve au contraire que toutes les informations sont de plus en plus émotionnelles, que toutes, on ne fait appel qu'à l'émotion. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a de la haine. Vous en parliez tout à l'heure, Jean-Claude. Mm. C'est tout à fait vrai. Jean-Pierre, pardon. les présidents et toutes les informations actuellement se passe à un niveau d'émotion et de colère qui permettent d'entretenir une certaine haine. C'est pas du tout intellectuel, au contraire.
Parlant d'entretenir la haine...
Qui serait-ce de le faire, ça?
En parlant d'entretenir la haine, ceux qui se nourrissent constamment de conflits, qu'est-ce qu'on peut dire de ce fait-là, finalement? Parce que ça existe, ces gens-là nous entourent hebdomadairement, je veux dire, on en rencontre. Pourquoi certaines personnes ont besoin de conflits pour exister?
Je ne sais pas pourquoi les gens ont besoin de...
Pour nous aider à comprendre ceux qui nous entourent.
Mais je crois que parmi les êtres humains, il y a des gens qui ont une telle soif de pouvoir ou une telle soif d'imposer leur point de vue. Parce que ce qui entretient le conflit et qui, à mon avis, les conflits et qui les rend souvent toxiques, c'est cette espèce de dogmatisme qui fait que... C'est quoi Homer? C'est-à-dire que j'ai une opinion, et c'est une vérité, et tu dois la partager, sinon il y a une conséquence à l'acte, puis je vais tout faire pour te détruire parce que je crois que c'est moi qui ai raison.
Il y a une fermeture d'esprit.
C'est mon idéologie. Alors, on a vu les guerres de religion qui se continuent au 21e siècle, et ça a été une partie importante de l'histoire de l'humanité. Il y a aussi des intérêts de pouvoir, et que ce soit dans le monde politique, dans le monde des affaires. On a toutes sortes de défauts, mais l'orgueil fait partie des traits humains. Alors, tout ça alimente les conflits. Je pense que la vraie question, c'est: un conflit est-il le résultat d'une émotion qui n'a pas été contrôlée, ou si le conflit a été voulu, recherché, entretenu, puis organisé? Et ça, ce sont les pires conflits, parce qu'à ce moment-là, quand ils sont voulus, organisés, orchestrés, ben, je veux dire, les gens n'ont aucun intérêt à les résoudre, ils ont juste intérêt à les maintenir.
Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil, et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Et sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire piétiner, on est là pour voir le défilé. Tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde, sinon plus tard quand la reine reviendra. Ma parole, nous on reviendra pas. Jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on sert à Beaujolais vrai de vrai un hectare de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie, alors j'ai dit: on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu faire une petite belote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse pas croyable. Ouvre cette porte et sors des verres. Ne t'ostine pas ou sans ça le prochain coup, ma parole je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là qu'on a trépassé le soir même et voilà qu'on se retrouve au paradis vers minuit devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient.
On continue de parler de conflits intérieurs également. Et comment on peut un petit peu mieux les gérer dans quelques instants? Restez avec nous.
Alors j'ai dit: on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps.
Vous écoutez toujours On est tous des humains sur le canal M. Emmanuel Robitaille avec vous. Je ne suis pas seule, je suis en compagnie d'Élise Corriveau, François Baruel et Jean-Pierre Charbonneau. Cette semaine, on parle de conflits.
She don't, but she will. He sells anything to keep her by him. Takes what she gets, and she never did flinch. No, so over and over, will anyone, well, any mind would think that's all she gets. If you want, you can't get to know me well. We get along, so we shouldn't. My best defense. So go on, wreck me. Funny how I carry on and not be taken over. I will not roll over on anyone, cause anyone will stand up on my side. If you want, you can get to know me well. We get along, so we should. Funny how sometimes it don't work out like you want to. No, you never get nothing at all. When this tells you that it's over, boy, don't you hate it when it's over? I guess something just got lost, and it deeply saddens me. So over and over, will anyone?
Madame Corriveau, on parle de dimension de conflit. On venait de parler d'ailleurs, on peut parler de conflit social, communautaire, entre voisins, entre familles, dans le couple, à l'intérieur de soi. Il y a un aspect individuel, personnel, intérieur dans les conflits qu'on vit.
Oui, absolument. C'est sûr que quand on a parlé, bon, comme vous dites, de différentes dimensions, maintenant, la dimension qui est personnelle, c'est un univers en soi. Maintenant, je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose où on peut peut-être réfléchir, c'est la façon aussi de se respecter soi dans le conflit. Parce que dans le conflit, il y a le respect de soi, il y a le respect de l'autre. Et puis, on apprend, on discutait tout à l'heure, on apprend dans la société à être poli avec les gens, mm-hmm. à respecter l'autre, à s'excuser. Mais ça peut peut-être amener à des réflexions intérieures sur comment on se sent soi dans ça. Comment est-ce qu'on sent qu'on se respecte dans le conflit? À défaut de devoir aussi respecter l'autre. Hein, parce que des fois, les limites des uns s'arrêtent ou celles des autres commencent et on devient des fois dans un monde où on a une complexité aussi dans la normative, où on ne sait plus trop où on doit se respecter l'un l'autre dans tout ça. Hein?
Mais c'est super intéressant et vous le nommiez tout à l'heure, M. Charbonneau, cette idée-là, on en parlait tout à l'heure, cette idée-là de respecter l'autre, respecter soi, des fois, on va blesser l'autre et on l'oublie. Puis ça crée un conflit, mais c'est pas ça, pas en toute la réalité profonde.
En fait, on l'oublie pas, c'est qu'on le sait pas.
On le sait pas.
C'est-à-dire que tu peux être avec ton conjoint, avec un enfant, avec un ami, puis à un moment donné, il y a une discussion, il y a une conversation, puis tu dis quelque chose qui blesse l'autre profondément, mais l'autre est blessé. C'est sa réalité. T'as pas fait exprès pour le blesser. Tu savais pas que ce que tu dirais le toucherait à tel endroit et qu'à cet endroit-là, il y a une sensibilité extrême qui date souvent du passé de la personne. Alors ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas toujours une mauvaise volonté, même dans les conflits, même dans la violence conjugale, qui sont des conflits qui se dégénèrent. Souvent, les gens ne sont pas de mauvaise foi. Il y a des rapports de force où il y a parfois de l'inégalité dans la capacité à discuter d'égal à égal. Mais il y a souvent des gens qui s'accrochent. Et c'est pour ça que moi, je crois que ce qui est très important quand il y a un conflit, c'est le retour sur l'action. Autrement dit, il y a un devoir ou il y a une action d'introspection pour dire, quand j'ai par rapport au conflit que j'ai eu avec telle personne, est-ce que moi, j'ai bien géré mes émotions? Est-ce que j'ai commis des erreurs? Est-ce que j'ai mal jugé l'autre? Est-ce que j'ai mal lu, etc., etc.? Autrement dit, si jamais on se pose la question, pas juste sur l'autre, sur soi-même, sur notre façon d'être, ça ne veut pas dire qu'on ne se respecte pas. Ça veut juste dire que il n'y a rien de parfait. Alors, il faut que les conflits soient des occasions de progresser puis de grandir. Et la seule façon pour que ça puisse être le cas, c'est qu'il faut que les gens reviennent sur le conflit. Pas nécessairement avec l'autre, mais il faut qu'à un moment donné, ils n'évacuent pas le conflit et ce qu'ils ont vécu pour comme oublier puis zapper ça. Là.
En fait, on a une telle proximité dans un couple que la plupart du temps, les malentendus qui peuvent arriver viennent de cette proximité. C'est-à-dire que l'un ou l'autre croit qu'on doit être au courant de ce qui se passe et de son moi intérieur, tellement il y a cette espèce, je dis pas de fusion, mais déjà de telle proximité qu'il y a quand même quelques petites dendrites là qui passent de l'un à l'autre. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que l'autre l'a fait exprès pratiquement, alors qu'en fait, pas du tout. L'autre ne sait pas, il ne connaît pas forcément tout l'historique, hein. D'autre part, c'est ce qu'on disait, ce que vous disiez tout à l'heure, j'insiste dessus, on n'apprend jamais aux enfants à parler eux-mêmes. Ils s'excusent, mais ils ne disent pas. On ne leur apprend pas à parler. Quand ils se sont sentis agressés, on ne leur demande pas qu'est-ce qui s'est passé. Il faut leur demander de le dire dès qu'ils sont petits, en fait. Il faudrait qu'ils parlent. Qui sont petits. Et on éviterait énormément de conflits ensuite.
Absolument. Donc, le respect va de s'excuser, bon, d'être respectueux envers l'autre, oui. S'excuser, mais en même temps de se respecter soi, d'expliquer où on a vécu le malaise de notre
frustration.
Selon notre perspective. La notion individuelle du conflit et de la façon de gérer le conflit, elle est complexe.
L'humain est assez complexe, de base.
Tout dépendant comment la personne est construite, sa façon de d'interagir dans le conflit va différer. Donc, il y a autant de façons d'interagir dans le conflit qu'il y a d'humains. Maintenant, où ça, 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 ce que les gens ne savent pas, c'est que souvent, on peut avoir une dominante dans notre façon de réagir dans le conflit. Par exemple, on pourrait sentir que l'évitement peut être la bonne solution mm-hmm. dans toutes les circonstances, et c'est faux. Malheureusement, certaines personnes croient que la bonne façon de réagir dans les situations est toujours celle avec laquelle ils se sentent à l'aise, alors que c'est intéressant au niveau il existe toutes sortes de profils et de façons d'évaluer mm-hmm. comment tout un chacun réagit au conflit, mais d'avoir cette souplesse, de développer cette souplesse-là, d'adapter notre approche en fonction de notre interlocuteur et aussi en fonction des situations.
De sortir de notre zone de confort, même en conflit.
Oui, mais...
L'évitement, c'est très confortable.
Hein? Oui, c'est confortable. En même temps, moi, je pense par exemple aux écrits d'Yvon Dallaire, un psychologue sur le couple qui s'intéresse à mm-hmm. ces questions-là depuis des années. Bon, il montre souvent comment les hommes et les femmes ont des réactions différentes par rapport au conflit, par rapport à la façon d'interagir. Mm-hmm. Ça, c'est sans compter ce que madame disait, chacun a une personnalité
en plus,
différente,
oui.
Mais il y a aussi des façons, disons, ataviques de
c'est genre,
de ce qu'on,
oui,
ouais,
il y a des antécédents de genre.
Alors, mais on n'apprend pas, le problème, c'est qu'on n'apprend pas aux enfants, à quelques exceptions près, à débattre et à discuter. C'est pour ça que la philosophie pour les enfants qui commence à se répandre un peu partout est intéressante, parce que là, on apprend aux enfants à débattre, à dialoguer et à trouver, à avoir des comportements de tolérance, de respect par rapport à l'autre, d'écoute, et on crée finalement, on va peut-être finir par créer des humains et des citoyens qui seront plus capables de faire des conflits positifs et de débattre et de discuter sans nécessairement que ça conduise à des drames.
Vœux pieux. Vœux pieux.
So you made it home alive and well, the perfect soldier now it seems. Oh, and you could be forgiven if you thought it all a dream. Your friends and family are there to welcome you back home. And with the ones you love close by your side, you're home where you belong. And so you look to find that switch, try to erase what you've seen, but your mind still races unaware to the places you've been. And although you know that danger's many thousand miles away, your body starts to feel this fear inside. It's growing stronger day by day. Me, I'm fighting my own war, and it's raging deep inside of me. When no one else has ever heard of, one no one else will ever see. It's from a fear I've never known, and each day I face it on my own. Conflict inside, I feel that I may never. When attack comes from a memory to them, while lying in my bed at night, my mind is far away, and I'm fighting the same war again, the same as yesterday, where the bullets rain and dying men cry out as they let go. And there is no one here that you can trust among these faces you don't know. There are worse things than dying, me, I know this to be true. And there are days so filled with anger, and I know I take it out on you. And I'm sure you find it hard to recognize the man within, and he's been eaten up by sadness
never letting anybody in. So you wake to find the darkness, feel like your heart is caving in. And though she tries to tell you it's okay, she can't imagine where you've been. And as she holds your body closer, stops your trembling inside, you know that she's your only shelter, your only place that you can hide. But I'm tired of this damn war, don't wanna fight it anymore. How come it's one I've never heard of? Why's no one mentioned it before? I know I'm not the only one, but God knows I face it on my own. This conflict and fight, I fear that I may never win. This fallen soldier beaten by his war within.
On est en train de se rendre compte que le conflit, c'est un tremplin, que c'est comme une situation mal aimée. On a parlé d'opportunités et plus on avance dans cette émission qui va trop vite, on est en train de se rendre compte que c'est une opportunité de changer, de progresser. De se remettre en question, de mieux se connaître, de se connaître, c'est une question de respect, de limites, de besoins, de valeurs, d'intérêts. C'est une possibilité de considérer l'autre, d'apprendre le compromis. C'est plein de programmes sociaux également qu'on a intégrés et c'est rempli d'émotions. Comment on fait pour se rendre là? Comment on fait, parce que là, on l'a dit, c'est bien le fun, je viens de le garrocher en 2 secondes et quart, mais comment on fait pour finir par utiliser le conflit comme une opportunité avec d'aussi belles ouvertures et possibilités?
Je crois que ça prend tout simplement un apprentissage dès le départ. Et dès le départ, chez les enfants, je pense qu'il faut apprendre aux enfants à discuter. Il faut apprendre à l'ouverture.
D'où la philosophie pour les enfants.
D'où la philosophie pour les enfants qui doit être... Mais il faudrait que ce soit aussi massivement appliqué et non pas seulement dans certaines minorités ou dans certaines... Je vois en Scandinavie, ça l'est beaucoup plus pratiqué. C'est beaucoup plus... cool en Scandinavie que je vois en ce moment ce qui se passe juste nos voisins du Sud, par exemple, où au contraire, on fait l'inverse. Donc, ça passe par là, ça passe par apprendre à parler.
Ça passe par l'éducation. Et oui, je suis d'accord avec le docteur que le problème, c'est que sur la planète, les processus éducatifs, à quelques exceptions près, ne s'intéressent pas suffisamment à ça. Ça, c'est la façon de vivre. Et le problème, c'est que ni les enseignants, ni les parents sont souvent préparés à faire ce type d'enseignement-là.
Comment on veut apprendre? On ne peut offrir que ce que l'on a.
Les parents sont totalement imparfaits et les enseignants aussi. Mm-hmm. Alors, comment on prépare des sociétés à donner des apprentissages sur le dialogue, sur la tolérance, sur le respect.
Effectivement, comment on fait pour nous qui avons été scrappés, qui ne l'avons pas appris, comment on fait pour tendre l'autre joue?
C'est-à-dire qu'on a été scrappés. C'est-à-dire, on a tous la responsabilité de nos vies. Et c'est pour ça que je disais qu'à un moment donné, il faut avoir la conscience que au-delà des failles de nos parents et de nos enseignants, on a la responsabilité de notre vie. Oui. Et à quelque part, on doit se poser des questions sur notre parcours, sur ce qu'on a fait, de bien et de pas bien, de pas efficace, et puis de se poser la question, comment je pourrais être plus efficace?
C'est un travail de toute une vie.
Et en plus, je voulais juste ajouter un autre élément, c'est que le problème dans les conflits, c'est qu'ils ne sont pas toujours d'égal à égal.
Non.
On fait des compétitions, par exemple, dans certaines disciplines où les gens sont de la même catégorie, presque du même poids.
Ouais.
Mais dans la réalité de la vie et des conflits, on a des gens qui combattent ou qui affrontent d'autres et qui sont incapables d'affronter parce que le niveau n'est pas le même. Leur habileté personnelle, leur intelligence émotionnelle, etc., tout ça n'est pas au même niveau. Ça complique parce que les humains, tu sais, il n'y a pas de programme là, qui va faire en sorte que tous les humains vont fonctionner d'une façon harmonieuse. C'est, est-ce que c'est la beauté de l'être humain ou c'est sa totale imperfection? Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas sorti de l'auberge, là.
Aujourd'hui, on peut constater que tout va vite. Alors, plus on va aller vite, plus on a tendance à vouloir être centré sur soi. Et on peut manquer de générosité dans la façon de nous comporter avec autrui. On peut voir ça dans un ensemble de conduites qui manquent à la civilité, par exemple. Bon, il peut y avoir toutes sortes d'irritants dans notre quotidien où on se rend compte que les gens manquent de bienveillance avec l'autre. Et ça pourrait partir aussi du fait qu'on doit peut-être réfléchir à se rendre disponible dans la façon de converser avec l'autre dans le conflit. Et puis pour avoir une conversation de qualité, ça demande de prendre le temps d'écouter et d'être généreux et d'être tolérant, aussi d'être capable de pardonner, d'être tolérant dans la différence de l'autre aussi. Et puis, c'est pas facile d'être généreux aujourd'hui alors qu'on est pressé, on va avoir des résultats rapidement. Et puis souvent, les jeunes se font élever et puis ils ont raison. Ils ont raison. Alors, quand on a raison, alors pourquoi s'ouvrir à l'autre?
Non, puis là, c'est un rapport de force. Moi, j'ai raison, je veux gagner. Je veux que mon point de vue soit celui qui prévaut, puis je l'impose. On parlait de la responsabilité des enseignants, mais il y a la responsabilité aussi des gens qui sont les leaders dans des religions. Il y a une multitude de religions, il y a des grandes religions. En principe, tout le monde est pour le dialogue, pour le respect de l'autre, mais il y a on voit juste qu'il y a des sacrées failles entre le comportement des humains aujourd'hui puis et les enseignements supposément qui sont distillés depuis des siècles et des siècles. C'est-à-dire, on a quelque part, il y a quelque chose qui a été raté. Là. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire en sorte qu'on ait suffisamment d'humains, une masse critique de gens qui sont capables de gérer des conflits correctement. Mais peut-être qu'on attend trop aussi des humains. Là. On attend quelque chose qui est...
Moi, je dirais qu'on attend trop parfois pour mentionner qu'il y a une mésentente, cette accumulation-là, et on en a parlé également tout à l'heure, hein, de garder pour soi et finalement qu'il y a une escalade blâme pour blâme. Ça aide pas beaucoup non plus. Peut-être arrêter d'avoir peur du conflit, ça veut aussi dire d'y aller en temps et lieu.
C'est y aller et aller voir. Et en fait, vous parliez tout à l'heure des guerres de religion, mais on a l'impression que les guerres de religion, ce n'est jamais qu'une manipulation. La religion n'est qu'un outil de manipulation, à mon avis.
Tu me dis pas.
Qui permet justement de contenir et de maintenir les gens en conflit permanent. De manière à pouvoir asseoir son... Bon, j'ai l'impression de citer 1984, là. J'ai l'impression d'être là-dedans, mais...
Mais je veux simplement nommer, et pour ceux qui nous écoutent à la maison qui ont de la difficulté encore avec le conflit, et on vous comprend, et même moi, j'ai un malaise profond quand je tombe en confrontation avec quelqu'un, j'ai de la peine. J'ai vraiment une peine. C'est pas quelque chose qu'on aime. Je vous conseille fortement de lire le livre « Cessez d'être gentil ». Soyez vrai, de Thomas d'Azambourg aux éditions de l'Homme, qui est un livre absolument exceptionnel, un homme qui s'intéresse à la communication non violente. Une chose qu'on ne pourra jamais vous enlever, c'est votre monde intérieur et vos émotions, vos sensations, votre perception. Parler au jeu, c'est toujours une façon qui s'assure de ne pas tomber dans un fait. Et comme on parlait tout à l'heure, M. Charbonneau, de cette idée d'avoir raison, moi, je pense que le plus gros obstacle à la résolution de conflits, c'est de vouloir avoir raison, d'être boqué et d'avoir peur de changer. Pour moi, ça serait la chose à travailler. On parlait d'introspection, là?
C'est la peur et le pouvoir. Et les gens ont peur. Et ils ont peur d'être détruits. T'sais, quelque part, c'est la peur de la mort. Mais ils ont peur d'être détruits parce que tout à coup, des concessions qui seraient faites les amèneraient à plus être dans le coup. Là,
n'ayez pas peur des conflits. Et n'ayez pas peur de reconnaître qu'il y a un conflit. C'est là le premier pas.
d'avance, alors tu gardes ce que tu penses pour toi. Dis ou fasse ce sans importance, laisse décider la chance, cesse de demander pourquoi. Alors on peut dessiner des mots d'amour du bout des lèvres, on peut siffler comme un oiseau quand le soleil se lève, on peut laisser ses mots crever dans sa bouche et pleurer comme un bébé quand le soleil se couche. Blanc, qu'on est pour ou qu'on est contre et qu'il faudra choisir un camp. Ah non, allons voir s'il nous est permis de garder l'espoir. On peut dire à celle qu'on aime et qu'elle est belle, recommencer tous les matins quand le soleil se lève. On peut viser tous les cœurs et ne jamais faire mouche et rentrer seul quand le soleil se couche.
Jean-Pierre Charbonneau, toujours actif dans la défense de vos opinions, vous transmettez le flambeau en offrant des conférences aussi sur la politique. Vous parlez de politique, de responsabilité citoyenne, de leadership, d'éthique.
De courage aussi. En tout cas, des choses qui sont un peu liées au conflit ou à la résolution de conflits.
Votre autobiographie À découvert demeure disponible pour lire votre histoire, une histoire inspirante et peu banale. Merci d'avoir été là.
Merci beaucoup.
Élise Corriveau. Vous continuez à assurer la médiation et la résolution de conflits au cabinet Dialogue. D'ailleurs, si l'on a besoin de vos services au privé ou au public, on se rend sur le site le dialogue-dpr.com. Merci d'avoir été là.
Merci.
François Baruel, vous continuez à faire bénéficier nos auditeurs de vos connaissances. On peut vous entendre pour vos chroniques Bonne Nouvelle Santé dans l'émission Aime la vie, diffusée ici sur le Canal M les mardis à midi, en plus de prêter votre voix à des livres audio dédiés aux personnes non-voyantes ou malvoyantes ici à Vues et Voix. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Dernier outil concret pour éviter l'escalade émotionnelle, respirez et surtout choisissez vos combats. À la semaine prochaine.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.